Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous, il est 13h et vous êtes toujours sur la radio CFAC 88.3. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode hebdomadaire dont jase politique. Le sujet du jour porte sur l'union des droites en France, ou bien l'hypothétique alliance des partis de droite, en vue notamment de l'élection présidentielle de 2027. Pour décrire brièvement, compte tenu du succès du parti d'extrême droite du Rassemblement National, l'ensemble des forces politiques de droite commencent à réfléchir à l'opportunité d'allier leurs forces afin de porter leurs idées au pouvoir et notamment barrer la route à la gauche. Pour autant, cette alliance n'irait pas de soi. Aujourd'hui, si j'ose dire, est un jour historique pour l'émission. Nous comptons non moins que 3 invités. Je vais demander à chacun des intervenants de se présenter succinctement ainsi qu'à résumer sa propre vision du sujet de l'union des droites. Dorian ?
Moi, je m'appelle Dorian Loverier, je suis en doctorat à l'Université de Sherbrooke. Alors, je ne suis pas en politique, je viens d'ailleurs, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et puis, ma vision du sujet, c'est que cette union est possible, mais elle va demander beaucoup de compromis à beaucoup de gens. Et donc, elle sera plus précaire que ce qu'ils voudront faire croire au moment des élections.
Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Olivier Roy, je suis étudiant en économie, en maîtrise. Moi, je quand même, ça s'entend, je vais être le seul Québécois ici sur cette étape-là. Je serai un peu, le point de vue extérieur, finalement, le point de vue québécois, même si, je dois avouer que je ne suis pas non plus un néophyte dans ce sujet.
Bonjour à tous et à toutes. Je suis Aurélien Nombride, je suis un ancien étudiant du bac en économie et actuellement aux études à la maîtrise en politique internationale et appliquée à l'Université de Sherbrooke, et je suis un Français.
Merci. Et donc, pour rappel, moi, c'est Madène. J'ai récemment gradué d'une maîtrise d'histoire à l'Université de Sherbrooke et je suis simplement passionné de politique. Et moi aussi, je suis français. Bref, je pensais consacrer le premier grand thème de l'émission, notamment à la montée du RN comme tel. Parce que si on parle d'union des droites, c'est bel et bien en grande partie du fait du succès du RN, aujourd'hui dirigé par Jordan Bardella. Le parti et ses alliés directs occupent aujourd'hui un quart des bancs de l'Assemblée nationale et à l'heure actuelle, il est donné en tête dans les intentions de vote aux élections présidentielles de 2027, donc d'ici un an et demi à peu près. En outre, ses idées semblent prédominer au sein des Français. Les sondages montrent une forte prédominance d'opinions favorables à une sécurité plus stricte, une maîtrise renforcée de l'immigration ou encore à la défense des valeurs nationales. Première grande question. Selon vous, qu'est-ce qui explique le succès du RN et de ses idées ?
Je dirais que c'est tout simplement c'est l'offre et la demande. Donc il y a un électorat, un bassin de population en France qui s'accroît d'année en année par rapport à des convictions qui sont partagées entre elles. L'immigration, la sécurité, la désindustrialisation, un certain rejet de l'Union européenne. Et s'il n'y avait pas ce bassin conséquent, dans un régime parlementaire pluraliste, il y aurait techniquement une offre politique. Et l'offre politique, c'est le Rassemblement National et aussi certains autres partis de droite, malgré quelques divergences sur certains partis, des projets. Mais je pense que c'est ça avant tout.
Quelqu'un d'autre pour compléter ?
Le manque de représentativité aussi, peut-être, ça amène des gens avec des opinions assez diverses à se rabattre sur le parti d'extrême droite, parce qu'il y a différentes thématiques quand même qui sont englobées par ce parti. Puis il y a des gens, c'est peut-être plus immigration, des gens, c'est peut-être plus industrie. C'est ça, c'est que... déjà, c'est un parti qui a une longue histoire, donc c'est des gens qui travaillent quand même à leur propre montée, hein, donc il y a quand même une organisation, une logistique là-dessus, qui est efficace. Sur certains aspects. Et puis, ça s'inscrit aussi dans un mouvement plus global, européen, voire occidental, de montée de la droite en général.
Oui, et c'est aussi le fait qu'il y a
Les Français sont majoritairement en faveur de limiter l'immigration depuis, je pense, dans les sondages. Si on regarde les sondages, la tendance moins nationale, c'est depuis au moins 20 ans. Et depuis 20 ans, l'immigration n'a pas baissé. Donc il y a un certain ras-le-bol de la part des Français et aussi le fait qu'ils sentent qu'ils ne sont pas représentés politiquement. Beaucoup veulent moins d'Europe, beaucoup veulent moins d'immigration, beaucoup veulent défendre les valeurs nationales. Beaucoup sont même contre, des fois, l'islam et pour la laïcité, mais de manière assez réaffirmée. Et ce n'est pas représenté dans les choix exécutifs des dirigeants français. Donc il y a un certain ras-le-bol et une tendance vers les extrêmes en Occident et en France.
Ou plutôt, pour rajouter que c'était dans les presses de campagne de plusieurs candidats, pas seulement en France, mais un peu partout dans l'Occident, de justement s'attaquer aux problèmes de sécurité, d'immigration et ces choses-là. Mais d'habitude, on le voit par exemple en Italie, hein, c'est plus frappant que finalement ceux qui avaient promis de faire des réformes, d'agir, finalement, ils n'avaient rien fait de tel. C'est, je pense, c'est quelque chose qui pourrait aussi être pris en compte, finalement, que finalement, le Rassemblement national et ces partis qui n'ont jamais été vraiment au pouvoir et que eux, on ne sait pas ce qu'ils feront exactement au pouvoir, mais on peut bien leur laisser la chance, en quelque sorte.
Ouais. Ok, ouais, non, mais je... Oui.
Juste ajouter un petit truc, parce qu'Aurélien a beaucoup parlé d'immigration. C'est vrai que c'est un sujet qui cristallise beaucoup, beaucoup de choses. Mais ça s'inscrit dans une dynamique plus loin. Là, je regardais à l'instant les sujets de préoccupation des Français ce mois-ci. C'est pas l'immigration, le premier c'est la santé, ensuite après la santé il y a l'inflation, et en troisième, donc c'est même pas le premier, vient même pas la sécurité, vient la lutte face au terrorisme. Donc c'est même pas l'immigration en soi qui arrive dans le top 3, c'est le sondage IFOP, je viens de regarder. Donc je dis pas que c'est pas un sujet important, et c'est vrai que c'est un sujet majeur dans le vote du Rassemblement National, mais ce que je veux dire c'est que c'est un sujet qui cristallise des mouvements qui sont sous-jacents, qui sont peut-être un peu plus globaux que ce simple sujet représentatif, certes, mais pas unique.
Et ce sondage, il est de maintenant ou... Parce que je sais que le risque aux attentats était très, très populaire comme enjeu durant les périodes des attentats en Europe en 2015, 2016, 2014.
Mais il y avait l'anniversaire de Charlie Hebdo il n'y a pas longtemps.
Ça c'est vrai ça.
Enfin l'anniversaire, je sais pas, c'est la commémoration.
Mais il faut aussi tenir ouais. au compte que ces sondages-là. Alors je sais pas comment ce sondage a été réalisé, mais pour beaucoup c'est le thème le plus populaire. Ça veut dire que tout le monde va dire la santé, la santé, la santé, mais juste tout derrière, les personnes vont aussi choisir l'immigration. Mais la différence est des fois assez minime c'est plus par rapport à la manière dont on choisit, privilégie le thème. Ici, mais ouais.
Ok, tu voulais ajouter.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que l'immigration, c'est un sujet qui cristallise les choses, mais ce qu'il y a derrière, c'est un espèce de ras-le-bolisme, comme l'appelait Mélenchon à un moment, de dégagisme général, qui est pas. Qui peut parfois faire en sorte qu'il y a de la mobilité entre des gens qui votent extrême gauche et extrême droite, qui en fait, c'est juste que les gens ont marre des gens qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, en fait, ils voient dans le RN une alternative. Au-delà du sujet de l'immigration, ils voient l'opportunité d'avoir du changement. C'est ça que je voulais dire. Je ne dis pas que l'immigration n'a pas d'importance, hein, c'est un sujet qui cristallise beaucoup de choses, mais je veux dire, se concentrer uniquement là-dessus, c'est perdre une dimension du sujet, je trouve.
Oui. Mais que veux-tu dire par perdre une dimension du sujet ?
C'est-à-dire que si on garde que la dimension immigration, c'est vrai que c'est un bon indicateur de ce qui se passe. Je pense que c'est tout à fait valide. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des sujets économiques, il y a des sujets de performance de l'État aussi. Il y a beaucoup de gens à droite qui râlent sur le fait que l'État n'est pas performant. Il y a plein d'autres trucs.
Oui, non, absolument. Et c'est justement la stratégie du Rassemblement National depuis, et même d'Éric Zemmour. C'était justement à partir de 2017, vraiment de s'élargir en termes de choix programmatiques, toucher l'économie, toucher l'environnement, l'industrialisme et tout ça, l'éducation, alors qu'avant c'était l'immigration, et le RN s'était rendu compte en 2017, une raison pourquoi à l'époque l'union des droites, qui est le sujet de cette discussion, n'était encore pas possible, c'est parce que le programme économique du RN en 2017, on enlève le Frexit, qu'est-ce que c'est ? Pas grand-chose, franchement.
Ok, merci. Si je synthétise un peu vos réponses, la montée du RN, c'est lié à un phénomène assez universel. C'est tout d'abord une crise multifactorielle où les gens ont peut-être tendance à perdre leurs repères. Ensuite, une polarisation politique qui s'ensuit naturellement. une polarisation qui favorise l'émergence d'idées et surtout de partis avec des idées plus extrêmes et aussi novatrices. Comme disait Dorian, c'est un peu des idées nouvelles et les gens sont tentés d'essayer autre chose, vu que les solutions actuelles, n'ont pas vraiment tendance à répondre aux problèmes actuels. Très bien, merci beaucoup d'avoir brisé la glace sur ce sujet.
Le paradoxe, c'est que c'est novateur, mais en même temps, ça reprend des éléments qui sont plutôt du passé.
C'est vrai, oui, bon, c'est novateur, mais conservateur. Donc, oui. Après, un passé que beaucoup de gens n'ont pas connu aussi. Donc,
c'est vrai. Mais je veux dire, ce n'est pas aussi radical qu'une idée purement nouvelle.
Oui.
C'est quand même assez différent du discours ambiant qu'on entend majoritairement.
Oui, c'est ça.
C'est ça, ouais.
Oui.
Ouais, ouais.
C'est suffisamment pour apporter un vent de fraîcheur. En fait,
oui, c'est des idées de rupture, mais ce n'est pas une nouveauté en sens où c'est une idéologie cohérente purement.
La rupture n'est pas synonyme de nouveauté, rupture.
Oui.
Par exemple, interdire le droit du sol, ça c'est pratiquement une nouveauté, parce que elle est en rupture avec une loi qui a plus de 300 ans en France, 400 ans dans certains
cas. Oui, sur certains points, il y a vraiment des choses nouvelles, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un cadre idéologique totalement nouveau comme l'a pu être le communisme au début du 20e. C'est ça que je voulais dire.
Mais on n'est plus vraiment dans l'époque des idéologies. Grande idéologie qui est arrivée, c'était l'écologie, dans les années 90, 80, 2000 même.
Et l'altermondialisme après, ce que tu dis, Dorian, c'est intéressant parce que le communisme dans le siècle dernier, l'URN reprend justement pas mal cet espace qui a été vidé par le communisme dans certains territoires comme le nord de la France, par exemple, dont le vote était très attiré.
D'où je viens.
C'est ça, oui. tu pourras nous en dire plein de choses, sûrement. D'où ça votait beaucoup au Parti communiste et que juste après, c'est des électeurs qui sont réfugiés dans l'abstention. Puis quand l'URN est arrivé avec un discours aussi un peu plus social, là, justement, ils se sont retournés vers un autre vote. Très bien, merci. Face à ce succès du RN, la question des alliances à droite s'est naturellement posée. Le RN dispose déjà d'un allié solide, en l'occurrence l'Union des droites pour la République, ou bien l'UDR, d'Éric Ciotti, un parti dissident de la droite modérée, créé en 2024, dans la foulée des élections législatives de la même année. Également, je pense à Reconquête d'Éric Zemmour, donc un parti récent aussi, 2021, et encore plus à droite, qui s'était présenté sans succès dans le cadre des élections présidentielles de 2022, et qui a souvent naturellement manifesté un intérêt proche à l'Union. Mais par contre, ce qui semble plus surprendre, c'est l'attitude du parti Les Républicains, qu'on appelle LR. LR, un parti de centre-droit qui paraît à plusieurs égards plutôt éloigné du RN de base. Mais pourtant, ce même parti semble manifester un intérêt pour une telle union. Je peux citer quelques exemples, par exemple, dans le cadre de certaines circonscriptions aux élections municipales de mars, ou bien à l'idée d'une primaire large au présidentiel qui inclurait notamment Reconquête, mais qui toutefois exclurait le RN. En outre, son propre électorat à LR tend vers cette hypothèse d'une union des droites qui inclurait le RN. Donc, après la petite pause, j'aimerais que vous me décriviez à quel jeu jouait LR. On reprend l'émission. La question, c'était à quel jeu joue le parti Les Républicains avec le RN ? Est-ce que LR veut vraiment s'engager dans une union des droites ?
C'est pas clair encore aujourd'hui, mais c'est possible qu'il y ait un enjeu de survie quand même pour eux, notamment au niveau national. Moins au niveau régional, mais même si on voit que justement ils ont commencé par là, puisque récemment ils ont fait des alliances, des collaborations ensemble.
Parce qu'ils, tu parles de survie parce qu'ils sont affaiblis.
Qu'ils sont affaiblis par rapport à ce qu'ils étaient avant. C'est quand même le premier parti de France pendant pas mal de temps.
Oui, enfin j'ai oublié de préciser d'ailleurs, c'est LR, donc c'est un parti récent, mais hérite d'autres partis. Et par exemple, son prédécesseur direct, c'était l'UMP, l'Union pour un Mouvement Populaire, qui a notamment fait élire Jacques Chirac puis Nicolas Sarkozy.
Et aussi l'origine, notre grand général de Gaulle.
C'est ça. Il y a une longue tradition.
Vive le Québec. Pardon.
Oui, et je pense que les jeux sont pas encore faits, justement. On parle du quel jeu les Républicains. Je pense que les jeux sont pas encore faits, mais sont en train de se faire. Après, je suis pas dans les confidences du parti.
Non, mais je suppose que même eux ne savent pas encore exactement qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir. Ils sont peut-être encore en train de discuter là-dessus, de prendre position. Parce qu'effectivement, comme Dorian l'a dit, les Républicains, c'était un ancien parti très influent, très important, sur la scène nationale française, qui maintenant, eh bien, c'est plus grand-chose. Donc effectivement, ça serait effectivement censé pour eux de s'allier pour ne serait-ce que pour faire barrage à la gauche, à l'extrême gauche, qui dans les plus récents sondages que j'ai pu voir récemment avait quand même certaines chances de se placer au second tour. Et donc ce serait tout à fait plausible de voir des partis de droite comme les Républicains qui ont pu refuser une alliance avec le RN par le passé, se décider à faire une alliance de circonstances pour éviter à tout prix le passage de candidat à gauche qui, pour eux, serait certainement pire que le RN, de leur point de vue.
Alors oui, Olivier apporte un très bon point. Le nouveau front républicain face à l'extrême gauche et Mélenchon. Rappelons-nous que Mélenchon est la personnalité politique la moins préférée des Français. Et que dans le dernier sondage, le Jordan Bardella du RN est donné 74% au deuxième tour s'il est face à Mélenchon. Mélenchon fait 26%. C'est un score exécrable, si je puisse dire. Mais justement, ce qu'Olivier dit, faire le front républicain, c'est un peu ce qui s'était passé pendant les alliances entre le FN et le RPR, l'ancêtre des Républicains maintenant, dans les années 80, aux élections municipales et locales, pour faire face à la montée des communistes et l'arrivée même des communistes au pouvoir avec Mitterrand dans les années 80. Et donc, il y avait des alliances de circonstances pour faire face à la montée de l'extrême-gauche et communiste, etc. Après, ça s'est arrêté. Mais à quel jeu jouent les Républicains ? Moi, je dis, ils jouent pas à Mario Kart World sur la Nintendo Switch 2.
Ah, mince.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour une alliance. Le facteur numéro un, c'est la correspondance programmatique entre les partis de droite et d'extrême droite. Ensuite, il y a la volonté du partenaire principal de faire l'alliance, le RN, et la volonté des partis mineurs, LR Reconquête, de faire l'alliance. Et aussi, peut-être un dernier, qui est à quel stade est-ce que le RN ou alors les Républicains sont bas ? Je pense que leur jeu actuellement, c'est le statu quo. Avec Retailleau, il y avait peut-être une probabilité de changement. Avec Ciotti, il y en avait une quand il était président des Républicains. Il avait acté, semi-formalisé l'alliance des droites quand il était président du parti pendant quelques jours à peine. Et ensuite, il a été dégagé manu militari par beaucoup des militants et surtout des cadres des Républicains. Ça, c'était l'été, il y a deux ans.
Bah, ils avaient voulu le dégager, mais il était resté quand même. Il était resté un certain temps jusqu'à démissionner quelques mois plus tard.
Ouais, je ne sais plus si quelques semaines plus.
Il avait formalisé des alliances entre LR et le RN, mais pas toutes, parce qu'il y avait forcément une fronde.
Mais il avait été dégagé quasi militari parce qu'il s'était enfermé dans son bureau. Ils ont forcé la porte.
Oui, mais la justice lui avait donné raison, donc d'une certaine manière.
Mais ça, c'était juste quelques semaines, je pense.
Quelques mois, je pense, jusqu'à après les élections.
Bref, quel jeu joue LR ? Je pense que là, actuellement, ils sont un peu dans le statu quo. Je pense que, vu qu'ils font pas grand chose politiquement actuellement, il y avait quelque chose quand il y avait Retailleau, qui était ministre de l'Intérieur. Alors, on parlait plus de lui que de Macron, on parlait plus de lui que Bayrou, qui sont ses deux chefs au gouvernement. Et maintenant, il a été dégagé, remplacé par, je pense que c'est une dame d'Horizon, je sais plus, de centre-droit, je sais plus. Et là, maintenant, il a disparu du paysage politique. Dans les sondages, il était à un moment donné à 13-14% au premier tour. C'est incroyable pour le parti. Une relancée chez les Républicains, sachant qu'ils ont fait 4,9% aux dernières présidentielles en 2022 avec Valérie Pécresse. Ils sont à 13-14%. Et là, maintenant qu'il a été dégagé il y a deux mois, et ben maintenant, ils descendent 10, 8, 7%. Donc il y avait une vraie possibilité peut-être d'alliance sous cette période. Mais je pense qu'on en parlera plus en profondeur après.
Ok, merci. De ce que je retiens de ce que vous me dites, si je me mettais à la place de LR, c'est comme un instinct de survie, en fait, un réflexe de survie, dans le sens de survie pour sa propre survie, pour exister sur la scène politique en tant que parti et surtout exister à droite, mais aussi un instinct de survie par rapport à ses idées, parce qu'il considère que le principal danger, ce serait la gauche, qui, je le rappelle, la gauche est déjà plus ou moins dans un état d'union qu'il a fait à deux occasions aux élections législatives en 2022 puis 2024, en ralliant autant des plus modérés comme le Parti Socialiste que des plus extrêmes comme la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Donc bon, après, c'est pas une alliance qui tient tous les jours, mais bref, ça a de quoi donner des sueurs froides à la droite. Et oui, c'est ça. Enfin, j'aurais dû le préciser aussi un petit peu au début, c'est que bah, une alliance entre LR et le RN s'est déjà plus ou moins formalisée en 2024 à l'occasion des élections législatives. Lorsque Éric Ciotti était président, il avait annoncé une alliance, mais sauf qu'il y a eu une fronde. Donc il y a eu quelques alliances territoriales, mais elles ne sont pas toutes faites du fait de la fronde. Mais ce qui fait qu'après ça, bah, Ciotti a quitté le parti pour créer l'UDR, dont j'ai parlé, qui est un allié direct. Très bien, merci. Rapidement, je voudrais parler des possibilités un peu, enfin, des possibilités d'une telle alliance, notamment entre le RN et LR. Et sur ce que ça impliquerait pour eux, parce que c'est toi qui disais très justement, Dorian, au début, que ça va impliquer beaucoup de compromis, et c'est là-dessus que je voudrais m'attarder. Parce que comme j'ai dit, LR, c'est plus modéré. Ça inclut des centristes qui ont quand même des gros désaccords, enfin, des désaccords assez conséquents sur l'immigration, l'identité. Parce que, enfin, pour donner une comparaison un peu grossière, dans le cas canadien, imaginez des gens comme Xavier Bertrand ou Michel Barnier s'allier à Marine Le Pen ou Éric Zemmour. C'est comme imaginer Jean Charest s'allier à Maxime Bernier, si vous voyez un petit peu. Voilà, ça, sur certains points, ça semble un peu contre nature. Donc la question, c'est selon vous, qu'est-ce que ça impliquerait de la part de LR?
Avant de répondre, il faut peut-être faire une petite rapide analyse des rapports de force. On a le RN qui est clairement sur une montée fulgurante, grand succès populaire, voire populiste. Un parti qui se structure de mieux en mieux aussi, avec l'émergence de figures un peu plus sérieuses comme Tanguy, comme comment il s'appelle, je sais plus son prénom.
Jean-Philippe Tanguy.
Voilà, des gens un peu moins, disons qu'ils sont plus présents sur des dossiers techniques qu'avant. À l'Assemblée nationale, c'est au Sénat. C'est en tout cas, ça se structure. Mais c'est pas une transition qui est totalement finie non plus. Donc ils ont encore besoin de gens avec des compétences, ils ont encore besoin d'assises territoriales, parce que le RN, même s'il est très populaire, notamment sur les élections municipales, dans les conseils régionaux, les instances un peu plus, on va dire, étatiques, ils sont moins présents. Ce qui est la force des Républicains, et là où pourrait y avoir un terrain de négociation, pardon, parce que c'est justement ce que les Républicains, ce qui leur reste, c'est ce qui leur reste. C'est cette assise territoriale, cette présence dans les arcanes de la République, des figures comme ça, qui même la relation de ce qu'on appellerait en Amérique du Nord le Deep State, l'État profond, elle est bien meilleure entre les Républicains qu'avec des hauts fonctionnaires, des choses comme ça, qu'avec le Rassemblement National, parce qu'ils sont, ils viennent plus de la société civile, ils sont moins formés, ils viennent moins des grandes écoles, ce qui n'est pas le cas des Républicains. Donc, quand on fait cette petite analyse, on voit qu'il peut y avoir des terrains d'entente d'un point de vue purement, on va dire, stratégique, hein, je ne parle même pas d'idéologie, là, juste d'un point de vue des cadres, d'un point de vue des militants. Et donc, il y a des terrains d'entente possibles, mais là où ça coince, c'est qu'en effet, il y a des divergence idéologique, au-delà du fait qu'il y aurait sûrement un avantage mutuel d'un point de vue stratégique à collaborer. Et bien, ces points-là, c'est surtout sur l'économie. Je pense que c'est surtout sur l'économie, un peu sur l'Europe et un peu sur l'OTAN aussi.
Parfait, merci. Quelqu'un voulait ajouter de quoi ?
Ok. Moi, j'ai beaucoup à ajouter sur ça. Ta question, c'était
qu'est-ce que ça impliquerait de la part de LR, notamment, est-ce que ça va impliquer qu'ils doivent un peu se rendre plus extrémistes sur certaines positions? Okay.
Il faut le dernier pion qui manquait vraiment à l'alliance des droites, c'est LR. Zemmour voulait l'alliance, le RN a rejeté parce que Zemmour a fait co-cracher sur le RN en 2022 pendant la campagne, donc ils se disent pourquoi est-ce qu'on veut s'allier avec ceux qui nous ont craché dessus. Mais il y a toujours une possibilité d'alliance. Ciotti, qui était le président des Républicains, qui a été dégagé, a créé son propre parti, Union des droites républicaines, UDR, et s'est allié avec le RN. C'est un peu la branche, il se considère comme des milléistes, hein, Xavier Millet, c'est la branche milléiste française qui veut se mettre avec le RN. Alors que tout de même, je dirais qu'économiquement, ils sont assez différents avec le RN, mais bon, ils se font une certaine alliance. Les Républicains, maintenant, les premiers concernés de cette alliance, c'est qui ? C'est les électeurs, c'est les militants. 75% des personnes qui se considèrent comme de droite en France, ou électeurs de droite, sont pour cette alliance. C'est un nombre énorme. Au RN, on arrive à 85%, chez Zemmour, on arrive à 90%, et ce qui manquait, c'était les Républicains, qui ont toujours été en dessous de 50%. Et depuis l'arrivée de Retailleau, et encore une droitisation avec Ciotti avant et Retailleau l'année dernière, eh ben, y a environ 55 à 60% des militants LR qui sont en faveur d'une alliance. Ils ont enfin brisé le 50%. Et pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il faut pour que cette alliance marche ou se passe ? On arrive à un stade où il y a une potentielle alliance qui s'est formée, qui a été potentiellement officialisée il y a un mois entre une liste Zemmour, LR et Debout la France, je pense, il y a quelques mois pour une municipale qui va se passer en 2026.
C'est pas par rapport à Robert Ménard ?
Non, c'est pas okay. Ça. Mais ultimement, les Républicains sont pratiquement plus en faveur de faire une alliance avec Zemmour qu'avec le RN. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un petit parti Zemmour. Ils sont également plus partis que les Républicains. Et c'est vrai que les Républicains, un avantage d'être allés avec eux, c'est qu'ils ont une sacrée assise territoriale. Mais ils sont plus en faveur de se mettre avec Zemmour. Pourquoi ? Parce que c'est le programme économique. On écoute Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, c'est une personne qui est tout de même assez de droite. Retailleau, c'est une personne assez de droite aussi. Et Wauquiez, lui, Wauquiez est d'ailleurs président de région de l'Est de la France, Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça, qui est tout de même la deuxième région la plus peuplée de France. Ouais. Je pense qu'on arrive à environ 10 millions d'habitants tout de même. Il était potentiellement en faveur d'une alliance avec le RN et d'autres personnes. Mais pourquoi ? Il disait que ça ne marcherait pas parce que le RN est économiquement de gauche. Il disait que ce sont des socialistes. Ils sont en faveur de baisser l'âge de la retraite, d'augmenter plus d'impôts. Ils vont troubler les marchés financiers. C'est ça le problème, c'est l'économie. Le reste, immigration, identité, sécurité, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Retailleau est pratiquement autant de droite que le RN. Wauquiez, presque autant. Ils ne sont pas au même degré. Mais je dirais que si le RN est à 10 sur 10 en termes d'intensité, Retailleau est à 8,5 sur 10 et Ciotti est à 7,5. Mais il manque tout de même un peu. Et encore une fois, beaucoup d'électeurs ne privilégient pas les Républicains parce qu'ils préfèrent l'origine à la copie. L'origine, c'est le RN. La copie, c'est les Républicains qui copient le RN pour être plus à droite sur l'immigration. Mais bref, donc, ce qui manque, c'est l'économie. Et maintenant que c'est plus Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, c'est Jordan Bardella. Et Jordan Bardella, c'est un peu un chiraquien. Dans le parti, c'est ce qu'ils ont. Ils portent même des costards comme Chirac. Ils essayent de se normaliser, de se présenter bien. Bon chic, bon genre. Et surtout, il a un programme économique qui est plus à droite que Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'était vraiment un programme économique qui était plus à gauche. Bardella, c'est moins le cas. Et avec Bardella, il est fortement possible que d'ici les élections présidentielles, il y ait une potentielle alliance parce que lui, il est plus économiquement compatible avec les Républicains et Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour, c'est autant de droite, voire plus à droite que les Républicains. Donc, c'est vraiment la seule chose qui manque. Il y a aussi d'autres aspects. On parlait d'alliance avec les Républicains. À l'époque, c'était l'UMP. Ouais, c'est un parti qui change beaucoup de nom, en 2014. Et c'était Jean-François Copé qui était en faveur de ça. Mais il y avait Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan qui avait fait la première alliance avec le FN pour les élections présidentielles de 2017. Pour info, Nicolas Dupont-Aignan, ancien politicien des Républicains, enfin de l'UMP, mais qui était trop souverainiste, donc il a quitté pour faire son propre parti, et il a fait une alliance au deuxième tour, en 2017, avec Marine Le Pen. Et il avait dit, oh mais Jean-François Copé, l'UMP, les Républicains, faites alliance avec nous. Et ils voulaient pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas ? Parce qu'ils avaient encore 40% des sièges à l'Assemblée nationale. Parce qu'ils se croyaient encore capables de faire un rebond en 2017. Parce qu'ils avaient encore une assise territoriale énorme et politique énorme. Donc, c'est différent maintenant. Maintenant, ils font des scores exécrables. Ils sont à 5%, ils font 5% aux dernières élections. L'ancien parti du général de Gaulle. Les seules élections qu'ils gagnent, c'est les municipales. Les européennes, ils se tapent du 8% ou 10%. Donc, on est à un stade aussi où, électoralement, les Républicains vont devenir un parti micro-satellite. Donc, il y a encore plus de probabilités, d'ailleurs, donc, qu'ils vont s'allier dans l'avenir. Tout ce qui manque, c'est l'économie. L'économie, ça se rapproche. Et ce qui manque, c'est un niveau des LR catastrophique dans les sondages, que peut-être, bam, on fait alliance avec eux. Et ça, il faudra qu'on en parle, des élections municipales qui se passent en mars 2026 ou février 2026, donc dans bientôt. en France, où il y aura toute la France qui va voter pour les maires et tout ça. Et là, il y aura peut-être des alliances entre les partis de droite.
Mais pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est que, bon, effectivement, le RN, c'est... Niveau économique, c'est plus un parti finalement sociodémocrate, plus ancré à gauche, alors que les Républicains, c'est finalement des partis de droite classique, dans le sens droite plus libérale économiquement. Et donc, effectivement, sur l'économie, il y aura des gros points de divergence et peut-être qu'ils ne seront jamais résolus complètement. Mais c'est sûr que sur le niveau identitaire, tout ce qui est niveau culture, identité, ce serait peut-être des points de rapprochement. Donc, finalement, lorsqu'on parle d'alliance, de rapprochement LR-RN, peut-être que finalement, ce ne serait pas une alliance complète, mais seulement des alliances de circonstances, selon au gré des cas. Par exemple, une alliance pour faire passer tel ou tel projet de loi dont les deux parties auraient le même point de vue. Et pour le reste, ce serait finalement chacun pour soi, chacun essaie d'avancer sa propre idéologie.
Oui, non, oui, c'est vrai. Après, bon, ça, c'est des alliances de circonstances.
C'est une supposition. Peut-être aussi de simplement faire des pas aller jusqu'à des listes communes sur les municipalités ou les législatives, mais de simplement se faire des ententes pour par exemple si l'un ou l'autre si au moins deux de ces candidats arrivent en tête pour le premier tour et qu'ils doivent avoir un second tour, qu'il y en ait peut-être un qui se désiste ou faire des ententes de ce genre-là, mais pas effectivement pas d'alliance complète avec des listes communes comme il pourrait y avoir eu avec la gauche et le Nouveau Front Populaire sur les élections législatives de les précédentes.
Bah après parce que c'est ça, c'est les alliances avec LR, c'est que même avant, il y a 15 ans, il y a 10 ans, même d'un point de vue identitaire, sécurité, immigration, islam, c'était pas vraiment complètement en accord. Là maintenant, c'est plus le cas. Donc il y a tout de même eu une avance, mais le oula, j'ai perdu le train de fil de ce que je voulais dire. Bon, allez, vas-y, continue.
Voilà, enfin, non, mais c'est... bref, bah, ça répondait à peu près à la question. Et, j'avais une question suivante qui était sur qu'est-ce que ça impliquait de la part du RN, mais vous y avez déjà répondu. Sur le fait que le RN va probablement droitiser un peu son programme économique.
C'est ça, et aussi l'Union européenne. Ouais. Parce que l'Union européenne, c'est aussi la différence entre les Républicains et le RN. C'est que le RN, ils sont très eurosceptiques, voire europhobes.
Mais ils en sont revenus quand même.
Ils en sont revenus. Mais tout
ça
même,
a changé.
Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est que les Républicains, au niveau européen, sont dans le parti politique le plus européiste, le PP, et qui gouverne l'Union européenne depuis 20 ans de manière pratiquement ininterrompue. Mm-hmm. Et en plus, ils sont alliés avec le centre-gauche. Et le problème, c'est que quand les Républicains... quand un parti de centre-droit fait alliance avec l'extrême-droite, des fois au Parlement européen, il y a des représailles et ils sont même des fois peut-être dégagés ou siègent avec les non-inscrits du Parlement européen. Parce qu'ils se disent, mais comment est-ce que vous travaillez avec l'extrême-droite? On n'est plus compatibles politiquement, bam, dégagé. Parce qu'il faut rendre compte tout de même quelque chose. Les Républicains en France, c'est du centre-droit ou de la droite pour un Français, mais pour un centre européen, c'est tout de même plus à droite que la écrasante majorité des partis centre-droit. C'est plus à droite que les conservateurs en Angleterre. C'est plus à droite que Forza Italia. Alors que Forza Italia, c'était tout de même déjà assez à droite avec Berlusconi. Dont pourquoi ils se sont alliés avec Giorgia Meloni dans les années 2000 et 90. Plus à droite, un peu plus à droite que le centre-droit en Espagne. Pour moi, un parti qui est assez similaire politiquement, c'est le fameux CDU en Bavière. Ouais.
CSU, je crois. Enfin, en Bavière, c'est CSU.
C'est
CDU, c'est National.
Oui, National, CSU, c'est le parti en Bavière.
Ouais, CDU est un peu plus à gauche que les Républicains. Si on devait le projeter dans le.
Avec Merkel, surtout. Je pense.
Ouais, mais c'est encore resté quand même.
Ok.
Ça reste chrétien, tu vois. Il y a des choses que.
Bah, ils sont assez similaires, les Républicains, avec Bart De Wever en Belgique.
Justement, on parle d'union des droites. Bart De Wever, c'est un cas intéressant.
Bah oui, c'est vrai, la Belgique est un pays.
Mais on va peut-être. Pas trop délivré pour
justement, je pensais parler un peu de l'union des droites à l'international vers la fin, vite fait. Mais
soyons mondialisés.
J'avais même pas pensé à ça, donc ça reste une excellente idée. Oui, restons mondialisés, merci. bref, donc sans vouloir tirer par les cheveux non plus, c'est juste, je voulais absolument passer au thème suivant, mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, ce qui me vient le plus en tête, et c'est quelque chose que tu as un peu pas mal explicité, Dorian, au début, c'est en fait, j'ai l'impression qu'entre LR et le RN, il y a comme une sorte de complémentarité. Du moins pour quelqu'un qui veut absolument l'union des droites, une complémentarité dans le sens des idées assez proches. Mais par exemple, complémentaire parce que le RN est plus puissant en termes de vote et le LR moins puissant. Mais LR a aussi une plus grande histoire et
plus de compétences.
Oui, ça a plus de compétences tout simplement qui permettrait au RN de débloquer comme certains postes et un certain savoir-faire. Et aussi au niveau économique, comme on disait, comme RN a plus un programme beaucoup plus interventionniste, alors que LR c'est plus, et aussi l'UDR c'est beaucoup plus milléiste, donc là-dessus ça va comme tirer, ça pourrait tirer le programme économique vers la droite.
Ouais, alors je suis d'accord, moi j'ai mis en évidence un peu ce qui pouvait les rassembler. Mais il ne faut pas oublier ce qui peut les diviser quand même. Et il y a beaucoup de sujets, hein. Il y a l'économie, il y a comme tu as dit l'Europe. Mais il y a deux risques. Un pour les Républicains, qui sont plus profonds, plus idéologiques, presque philosophiques finalement, et le Rassemblement National. J'ai commencé par le risque pour les Républicains. Le risque pour les Républicains, c'est quoi ? Mais c'est de se noyer, en fait. C'est de perdre leur identité, perdre leur indépendance, et devenir totalement satellite, voire même, à terme, une fusion et une perte totale d'identité de leur parti. En fait, que finalement, à force de copier le RN, leur existence ne fait plus sens dans le paysage politique français. Et ça, c'est un risque très important. Et pour l'instant, ce qui les maintient hors de ça, c'est l'économie. Mais si demain l'économie converge entre les deux programmes, il y a une structure qui va absorber l'autre, et ça ne sera probablement pas les Républicains qui vont absorber le RN.
Bah, moi, je dirais que si Macron s'écroule aux prochaines présidentielles, c'est possible que les LR gagnent encore plus de place par rapport au programme économique.
Ouais, alors mais ça on peut en parler après. C'est vrai que moi j'y ai pensé tout à l'heure, mais je voulais pas interrompre.
Après c'est la politique fiction un peu ça aussi.
Oui oui c'est ça. Mais que va-t-il advenir de la droite du macronisme quand le macronisme ne sera plus ? Mais ça c'est une autre question.
C'est vrai ça.
Ça ferait un excellent projet d'émission d'ailleurs. On en parlait.
Ouais, ça ferait une bonne question de savoir ce qui adviendra après le macronisme au macronisme. Mm-hmm. Mais donc bon, si je reste sur l'état actuel, sur la carte telle qu'elle est actuellement. Donc ça c'est le risque des Républicains, perdre son identité, disparaître dans les limbes de l'histoire. L'autre risque quand même pour le RN a aussi un risque idéologique qui est aussi lié à l'économie, mais aussi à l'idéologie, c'est que comme Wauquiez disait, c'est un parti qui a des aspects socialistes des fois, parce qu'ils ont une base populaire, une rhétorique populiste, et donc il faut qu'ils plaise à un électorat qui est socialement un peu plus défavorisé, un peu moins éduqué. C'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est vraiment sociologique.
C'est comme ce que je disais avec l'électorat communiste, justement.
C'est ça. Et s'ils se droitisent, cet électorat, ils le perdent. Donc, il y a un enjeu, il y a un équilibre, il y a un jeu d'équilibriste à trouver entre une droitisation excessive de l'économie pour récupérer les Républicains et une ligne quand même à tenir vis-à-vis de leurs électeurs de la première heure, parce que c'est aussi ça la promesse du RN, c'est moins d'impôts, plus d'aide sociale pour certaines personnes. Évidemment, bon, y a beaucoup d'exclusions dans leurs aides sociales, mais quand même, notamment, ils avaient prévu d'enlever les impôts pour les moins de 30 ans, ils veulent faire des politiques natalistes vis-à-vis en aidant la naissance économiquement. Enfin, ouais. Donc y a quand même des choses quand même assez à gauche quand on regarde. Et donc, y a ce double risque quand même. Et trouver le terrain d'entente pour mitiger ces risques l'un comme pour l'autre, ça va pas être si évident.
Après, moi, j'y sais rien. Le RN est déjà allé avec un parti, le parti d'Éric Ciotti, Union UDR. Mm-hmm. Et eux, c'est un parti qui est... Ils sont à droite, c'est comme le RN, un peu plus modéré, légèrement plus modéré, mais surtout, ils sont économiquement de droite. Ciotti, littéralement, le parti se dit lui-même d'être comme Xavier Milley, mais pour un certain français. Et malgré ça, malgré une alliance entre un parti RN très étatiste et un parti assez libéral économiquement, bah, l'alliance marche assez bien. Et parce qu'en fait, c'est ça, si tu es dans une alliance, c'est tellement plus simple parce que si le RN veut se libéraliser économiquement, ils vont peut-être perdre une partie de leur électorat. Mais s'ils font une alliance, ça sera le boulot du candidat LR soutenu par le RN qui le fera. Et personne ne verra « je suis un candidat LR, mais nous faisons union avec le RN ». Donc il n'y aura pas d'autres candidats RN, Zemmour, etc. Il y aura moi, parce que je suis le candidat choisi. Par exemple, dans une circonscription qui est de droite, mais économiquement plus bourgeoise. Donc par exemple, les Yvelines. Donc ça marche assez bien. Mais ultimement, grâce à ça, le RN n'a pas besoin de tenir un discours officiel, ah, on va être pour augmenter l'âge de retraite, etc. Non, ça va être LR qui va le faire.
Ouais.
Et ça va être moins tabou aux yeux des classes populaires qui votent pour le RN en faisant de cette stratégie-là.
En fait, LR, c'est comme la caution libérale du RN.
Oui, bah actuellement, c'est l'UDR avec Ciotti, mais ça peut être avec LR et même Zemmour bientôt.
Mais ça dépend de l'élection et ça revient à ce que Olivier disait. En fait, ça sera des alliances de circonstances. Quand on parle d'élection nationale, donc pour choisir un candidat, Est-ce que les Républicains vont donner des consignes de vote? Bon, probablement, vu comment c'est parti. Mais, enfin, je veux dire, ça, ce qu'on raconte, ça dépend aussi du type d'élection.
Parce que il faut oui ça c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on a alliance au premier tour ou alors alliance au second
tour?
C'est
ça, il y a plein de
oui. Très rapidement le RN et républicain, Zemmour, etc., tout ça, cette alliance fait que si tu veux gagner le second tour, il faut que tu raptes les votes de la droite, du centre-droit, des libéraux, économiquement libéraux. Ça, le truc. Parce que tu vois le rapport de voix, tu prends l'électorat de gauche, tu gagnes, mais pas autant que ça. Tu gagnes peut-être 25% de tout l'électorat de gauche du premier tour qu'il faut au second tour. Mais si tu es capable de rapter le vote de Zemmour, des Républicains, et un peu du parti d'horizon centre-droit de Macron, là tu peux environ avoir 50 à 60% de tout leur électorat aller au second tour. Et tous ces trois micro-partis ensemble, ça fait pratiquement le score un bon score tout même, au moins ouais. Quelques millions de voix.
On va laisser Madène continuer.
Mais merci beaucoup, c'est très enrichissant. Et pour passer rapidement là-dessus, c'est pas mal ce que je pensais moi-même sur, du moins en termes de stratégie. Pour finir l'émission, je proposais de parler d'un peu d'histoire et aussi un peu de parallèle dans le cas de situations similaires dans le monde. Mais ça, ce sera après la pause. Vous êtes encore avec nous. Nous allons finir l'émission sur surtout une note d'histoire sur laquelle Aurélien voulait particulièrement s'exprimer. Juste pour dire rapidement, donc l'hypothèse d'une union des droites dont on parle depuis tantôt, ça tend quand même toujours à surprendre parce que depuis les années 1980, lorsque le Front National lançait du RN avec Jean-Marie Le Pen émergé, on parle d'un cordon sanitaire autour du Front National, puis d'un barrage républicain. C'est une sorte de logique qui impliquerait de tout faire pour que le FN ou le RN n'arrive pas au pouvoir, quitte à voter pour un parti qui ne nous rejoint pas tant sur les valeurs, comme par exemple, c'est comme quand, dans des seconds tours, comme il y a eu face à Macron en 2017 puis 2022, où des électeurs de LFI, de la gauche, se mettaient à voter Macron, même s'ils ne reconnaissaient pas dans son programme, tout simplement pour faire barrage au RN. Mais pour autant, les sondages semblent prédire l'affaiblissement d'un tel barrage. Et il faut savoir en outre que dans le cadre de plusieurs seconds tours aux élections législatives, notamment les dernières de 2024, plusieurs voix de droite modérée n'ont pas hésité à se reporter sur un candidat RN face à la gauche surtout. Donc ma question, c'est comment le barrage républicain s'est-il effrité? L'hypothétique union des droites y est-elle pour quelque chose?
Le barrage républicain s'est effrité tout de même pas mal. Hein. On disait ça même avant la présidentielle de 2022. Elle existe encore. Mais bien sûr qu'elle existe encore. Mais comme elle existe pour tous les partis d'ailleurs. Comme des gars de PS ne sont pas prêts à voter des gars pour LR. Mais et en plus, en 2024, tout de même, ce barrage républicain, il était un petit peu encore en vie. Hein. Le RN a eu plus de voix que tous les autres. On dit que la gauche a gagné, mais elle n'a pas gagné. Elle a gagné grâce au système électoral, au système de vote mis en place par la Ve République. Ultimement, le RN avait 3 millions de voix de plus que la gauche. C'est juste le système qui... D'ailleurs, ça me tue. Ils sont anti-système, mais en même temps, ils adorent le système parce que le système fait gagner ceux qui ont moins de voix que les autres. Donc, moins de légitimité démocratique. Et donc, c'est justement avec ça qui fait que il y aurait peut-être une potentielle alliance entre... Oui, vas-y.
Mais j'ai un petit commentaire là-dessus. On parle bien des législatives, on est d'accord.
Ouais, l'année dernière.
D'accord. Les législatives sont aussi une élection territoriale. Donc, c'est pas juste le nombre de voix qui compte, c'est aussi le territoire. Et si un territoire est un peu moins peuplé, il a aussi le droit d'être représenté parce qu'il a une cohérence peut-être historique, peut-être géographique. Et donc, je comprends que ça peut... Oui, c'est vrai que ton argument, oui, ils ont utilisé le système à leur avantage, c'est vrai. Mais pour moi, c'est normal aussi que ça ne correspond pas pleinement au nombre de voix. De ce point de vue, le système français est bien fait, parce que contrairement aux élections américaines où c'est que le territoire qui compte et où il y a du gerrymandering, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, c'est ça?
Ouais, ouais, c'est ça.
En France, on n'a pas ça, parce que souvent c'est historique en fait. Genre, à part dans des petites banlieues qui ont été modifiées sous Chirac, parce qu'il fallait bien tricher de temps en temps. Mais, c'est la plupart des territoires, pour moi, c'est cohérent qu'ils soient.
Ouais, mais après, il faut se souvenir qu'en France, on est des élections législatives qui sont à deux tours.
On est un des seuls pays dans le monde à faire ça à deux tours. Ce qui fait que ça peut être moins représentatif au deuxième tour. Mais Timon, pourquoi est-ce qu'en fait, en France, on n'a pas beaucoup d'alliances, en général, entre les partis ? L'alliance des gauches est assez récente. Il y en avait une sous Mitterrand, mais elle n'avait pas duré plus long que le premier mandat de Mitterrand. Ensuite, il n'y avait plus d'alliance avec les communistes après. Et il y avait le SFIO avant. Mais pourquoi il n'y avait pas beaucoup d'alliances ? Parce que c'est des élections à deux tours. On n'est pas un régime pur parlementaire. On est dans d'autres pays, comme en Suède, au Danemark, en Suède, Norvège, Autriche, Italie, dans plein de pays, il y a déjà eu d'alliances entre la droite et l'extrême droite parce que ce sont des régimes purement parlementaires.
Je suis désolé, je vais faire je vais changer de sujet un tout petit peu, mais c'est parce que ça m'a rappelé une histoire, cette histoire d'union des droites. Je parlais tout à l'heure du risque pour les Républicains de se dissoudre dans le RN. Et en fait, c'est déjà arrivé dans l'histoire de France qu'un parti s'est littéralement dissous dans un autre parti, parce que tu viens de parler de Mitterrand. Et c'est le cas des chrétiens de gauche. Chrétiens de gauche. Non, mais je sais que ça n'a pas grand-chose à voir comme ça, mais historiquement, ça fait sens ce que je raconte. Chrétiens de gauche, donc parti qui naît fin des années 1850, enfin deuxième moitié du 19e siècle. Beaucoup de pouvoir, notamment dans les cités industrielles. La France était une puissance industrielle à l'époque avec beaucoup d'ouvriers. Donc ce parti-là a contribué, parce qu'il avait encore une existence dans les années 1980, a contribué à la victoire de Mitterrand, et de manière assez sérieuse. Et puis comme ils se sont totalement alignés sur le mitterrandisme, en fait ils se sont noyés dans le PS, en fait, et ils n'ont plus d'existence jusqu'à le parti, en fait, est mort. Les partis de chrétiens de gauche sont morts. Et se sont dissous dans une organisation plus grande. Donc c'est pour dire que ce risque-là de dissolution culturelle, idéologique, dans un parti plus gros, en fait, il existe, il a déjà existé. Et voilà, c'était juste parce qu'il a parlé de Mitterrand, ça m'a fait penser.
Ça marche. Madone voulait qu'on parle d'histoire, justement. Ouais. Ça revient à un fait historique. Mais si on revient clairement au sujet, c'est l'histoire. Historiquement, il y avait les alliances dans les années 80-90. En 81, je pense que c'était 80 ou 82, François Mitterrand arrive au pouvoir. Oui, c'est ça, arrive au pouvoir. Il est élu avec les communistes. Il y a environ 4 ministres communistes. Il y a des guerres en Europe de l'Est, il y a l'invasion de l'Afghanistan, la scène internationale est en défaveur des communistes, encore plus en Europe avec les conflits armés, les révoltes, etc. Et donc il y a l'alliance entre le RPR le Front National. À Dreux, c'est une ville, petite ville française de 30 000 habitants, ils se sont alliés. Enfin, au premier tour, le FN avait fait 10%. Et ils se sont dit qu'on va se faire une alliance dirigée par le FN pour le deuxième tour. Et Dreux devient une ville, une des premières villes, Front National, gouvernée municipalement, avec l'aide du RPR. Et ça, c'est un tremblement de terre. Donc, l'écrasante majorité, à l'époque, il y avait tout de même la Fronde, mais le FN était tabou, mais un peu moins. On les voyait un peu comme coincés, encore pro-Algérie et tout ça, mais bon, c'est plus le sujet depuis 20 ans. Et même le centre-droit et même le centre-gauche étaient pro-Algérie, pour garder l'Algérie dans l'Empire, même dans les années 50 et 60. D'ailleurs, Guy Mollet, ça c'est intéressant, Guy Mollet, c'était le Premier ministre français dans les années 50, en 57. Quand il avait regagné son élection, il avait dit « on a la droite la plus stupide du monde ». Parce qu'il disait que la droite était trop coincée, etc. Il ne touche pas les votes des classes et tout ça. Et je pense que même Chirac avait dit la même chose, c'est que dans les années 90, il y avait quoi ? Il y avait une désunion de la droite. Il y avait le RPR était divisé entre l'ancien parti de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République dans les années 70-80, avant Mitterrand, avec avec Chirac et l'autre gars qui était avec Nicolas Sarkozy. Donc ultimement, c'était une droite qui était très très désunie à une époque. Mais quand il y avait l'alliance avec le FN aux élections municipales en 81, si je me souviens, c'était 80 ou 80, il y avait tout de même certaines personnes dans le parti qui étaient contre. Simone Veil, qui avait fait l'avortement, droit à l'avortement, elle était contre. D'ailleurs, en plus, il y avait des militants FN à l'époque qui étaient venus déranger ses meetings et tout ça. Mais à partir des années 90, avec les propos assez problématiques de Jean-Marie Le Pen sur les camps de concentration et tout ça, et ses dérapages politiques dont il était très friand, les alliances se sont écroulées assez vite. Et avec l'union, comme je disais, parce que le centre-droit était assez divisé à une époque, il y avait même Philippe de Villiers qui avait son propre parti aux élections européennes à une époque, et ils se sont tous alliés avec Chirac, et donc la droite a gagné en 95, et donc il y avait encore moins de volonté d'avoir le Front National allié avec toi, parce que le centre-droit était clairement bien uni entre eux.
Et donc, aucune alliance dans les années fin 90, milieu 90, aucune alliance dans les années 2000. Justement, le début de la convergence électorale idéologique entre les Républicains et le RN, c'est avec Sarkozy. En 2007, il commence à tenir un ton plus autoritaire, plus identitaire. T'aimes la France ou tu la quittes, des choses comme ça, des slogans du Front National à l'époque. Et grâce à ça, il gagne l'élection de 2007 avec un bon score tout de même face à Ségolène Royal, candidat du PS. Et
tu n'aurais pas mis la victoire de Sarkozy uniquement sur ça, mais bon.
Non, mais au premier tour, le FN est passé de 18% sous Jean-Marie Le Pen en 2002 à 8%. C'est un de leurs purs scores. Mais en même temps, je pense que beaucoup du monde du FN se sont dit, bah, vu comment c'est fait atomiser à plat de couture en 2002, je vois pas pourquoi revoter en 2007. En fait, c'est un peu une cause perdue, en fait, voter pour le FN à l'époque. Mais il avait pris et rapté beaucoup de ses votes, et parce qu'il avait droitisé le centre droit. Il avait fait la même chose à sa réélection en 2012. Et ensuite, ça continue. Il y avait une petite centrisation avec Jean-François Copé quand il était président sous la période de Hollande. Et ensuite, ça s'est redroitisé quand il y avait, Damien Abad, mais on s'en fout un peu de lui. Mais il y avait Laurent Wauquiez, et ensuite, maintenant, il y a Retailleau, et ensuite, il y a Ciotti. Donc, le parti s'est clairement droitisé depuis Sarko pour satisfaire un peu une partie de l'électorat français qui va clairement vers l'extrême droite et essayer de répondre à cet électorat.
Très bien, merci beaucoup. Pour finir très rapidement, en fait, je voulais surtout... venir un peu plus de contexte mondial, en fait, plus quelques parallèles pour un peu étendre le sujet, pour quelques minutes un peu. Parce que cette hypothèse de l'union des droits n'est pas sans rappeler des précédents ailleurs dans le monde. Je pense surtout à l'Europe, avec l'Italie, qui est Giorgia Meloni au pouvoir depuis maintenant 3 ans, qui a allié, donc qui elle est issue de l'extrême droite, mais aussi alliée à la droite modérée, dont Forza Italia.
Oui, ce qui est assez surprenant, vu la durée de son mandat.
Aussi, oui, qui est un mandat... historiquement stable dans le cadre de l'histoire récente italienne.
Dans l'histoire italienne, en fait, ce qu'un président du Conseil faisait un an ou deux, c'était déjà une très bonne performance.
Trois ans, effectivement, c'est exceptionnel. D'ailleurs, Meloni a très bonne réputation en Italie, selon les sondages.
Oui, même des personnes de gauche disent qu'au moins avec elle, il y a de la stabilité politique.
Ok, ouais, je vois. Mais je pense aussi à l'Autriche, qui a connu des expériences similaires, ou aussi l'Espagne, qui n'a pas eu d'alliance similaire au pouvoir, mais qui... dont on a déjà vu la droite modérée, donc le Parti Populaire avec l'extrême droite, Vox, qui ont quand même dirigé des régions ensemble et qui ont déjà envisagé diriger l'Espagne ensemble si la droite en venait à l'emporter. Ou je pensais aussi tout simplement aux États-Unis. Le système bipartite fait que beaucoup de républicains traditionnels plus modérés se retrouvent un peu obligés à soutenir le candidat puis le président républicain en poste, en l'occurrence Trump. Donc je voulais savoir, est-ce que pour vous, il y a comme une sorte de rétroaction, comme une influence de l'international éventuellement, parce que dans d'autres pays, comme je dis, cette union des droites semble moins tabou. Est-ce qu'il y a une influence externe
C'est sûr que de côté, il y a un contexte historique, c'est-à-dire que par le passé, comme des années 30 à 40, peut-être un peu 50, notamment en Italie, Espagne, Portugal, Allemagne. Dans ces pays-là, il y avait des régimes autoritaires campés à droite ou à extrême droite, connaissez tous. Mais c'est ça, ces régimes se sont effondrés depuis les années 40 pour les premières années 70 pour, par exemple, l'Espagne ou le Portugal, ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Donc voilà, à partir de ce moment-là, les habitants de ces pays sortaient comme de régimes autoritaires, de dictatures, et ils en avaient peu... ça en avait plein de la droite, donc il est passé à autre chose, passé vers plus de droite plus modérée ou de gauche, mais là c'est le moment où ces régimes autoritaires franquistes, salazaristes, fascistes, ça fait maintenant partie de l'histoire, ça fait quoi, 70, 80 ans pour certains que ces pays, ces partis-là n'ont plus gouverné, donc déjà de ce point de vue-là, les nouvelles générations de nouveaux électeurs qui, eux... n'ont pas connu ça, donc ils n'ont pas les mêmes visions que pour avoir la droite ou l'extrême droite de ce point de vue-là. Puis même si on en avait parlé aussi un peu au début, effectivement, les partis plus traditionnels, ils sont au pouvoir depuis des années, des décennies. Et là, depuis ces quelques dernières années, tout tend à aller pour le mal. Donc on peut se dire, pourquoi pas essayer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent pour voir ce que ça pourrait donner. Et puis... on en a probablement parlé, mais par exemple, le RN, ils ont remporté quelques élections municipales, quelques villes, notamment Toulon, je pense.
En 95,
Oui, sur plusieurs villes. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont géré leur ville. La situation n'a pas vraiment empiré. C'est des villes propre, correct, ouais, pour qu'ils savent. Oui, pour Toulon, oui,
Toulon, ça s'était mal passé.
Toulon, c'est comme on avait dit, oui, effectivement, c'est un peu un cas à part, mais ce que je veux dire, c'est que certaines communes, certaines régions qui ont donné leur chance à des dirigeants de droite plus radicales ou d'extrême droite, ils ont vu que ça s'est quand même dans l'ensemble plutôt bien passé. Donc finalement, pourquoi continuer à les diaboliser, penser que ça allait être comme le mal qui va arriver, alors ouais, que finalement, c'est des gens qui font ce qu'ils peuvent.
Pour ajouter très rapidement, si je me souviens statistiquement, parmi les grands partis en France, le RN est celui où il y a le plus haut taux de maires qui sont élus au second tour, ou même élus au premier tour parmi tous les partis en France. 80% des villes qui ont élu un maire RN en 2014, je pense, ou 2018, ou je ne sais plus quelles autres élections, se font réélire.
Et puis en plus, c'est souvent des gens locaux qui sont pas... Je vais juste revenir à ce que tu disais, madame, sur plus le volet international. Il y a quand même une différence fondamentale entre la relation droite-extrême droite entre l'Europe et les États-Unis. C'est que il y a un bruit, je sais pas d'où ça vient, mais bref.
On va finir rapidement dans tous les cas, donc...
On va finir rapidement, ok. Donc...
Excusez, c'était moi.
Il y a une... Ok. Donc, dans le cadre européen, il y a un risque de dissolution de la droite dans l'extrême droite, alors que dans le cas américain, c'est une cannibalisation. C'est-à-dire que les MAGA ont tout pris, les républicains modérés, entre guillemets, même si c'est les États-Unis, c'est toujours un peu extrême comme politique, mais se sont fait totalement voler leur voix. Enfin, je veux dire, dans le sens où... leur voix, pas dans le sens politique, hein, dans le sens la voix parlée. On les entend plus. Ils n'existent plus dans le paysage. Ils existent toujours pourtant, ces gens. Je veux dire, c'est plutôt une sociologie un peu âgée. Et donc, de ce point de vue-là, c'est très différent. Moi, je parlerai pas d'union des droites aux États-Unis. Moi, je parlerai d'un
Une cannibalisation, comme ça.
Ouais, cannibalisation, une espèce de révolution interne finalement, un coup d'État interne.
Mais en Europe,
un renouvellement des. Des
on peut le voir comme un renouvellement, c'est vrai.
Mais en Europe.
Dans le sens que effectivement les anciennes voix républicaines ne sont plus entendues, elles sont dégagées pour passer par des nouvelles.
Ouais, mais à un coup quand même qui est le manque de pluralité dans le parti, surtout que c'est un système bipartisan. Bon, on va pas passer 20 ans dessus, mais voilà. Donc je laisse.
Oui, très rapidement, revenir au référent européen. On est tout de même dans des régimes ultra-parlementaires où les alliances c'est quelque chose d'historique. Le premier parti vraiment à s'être allié avec l'extrême droite, c'était le parti centre-droit du OVP qui s'est allié avec l'extrême droite FPÖ en Autriche en 2017. Et c'était une alliance assez unique. C'était les premiers. Avec l'Italie, bon, il y avait aussi avec les années 2000. Mais justement, il a assez bien dit, Dorian, que les partis qui étaient jadis grands peuvent finir petits s'ils s'allient avec l'extrême droite.
Et disparaître.
Forza Italia, qui était le parti centre-droit italien qui était de Berlusconi dans les années 90-2000, bah maintenant ils font 5-6% dans les sondages et sont alliés avec l'extrême droite. Bon, en vrai, même avant l'alliance, il y a que 3-4 ans, ils étaient aussi à 5-6%. Mais ça ne les aide pas trop à se relancer.
C'est plus un autre sujet, mais des fois, il y a des partis qui sont bâtis que pour leur chef.
Ah oui, ça c'est très vrai. Comme Macron avec la
République. Et peut-être François Legault avec la CAQ.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ciotti, tout à l'heure, on parlait de Ciotti, c'est pareil. C'est un parti.
C'est ça. C'est pour ça qu'il a créé son propre parti. Mais il y a des alliances. En Angleterre, il n'y en aura peut-être pas parce que le parti Reform est juste trop puissant et il a la majorité absolue. Mais il y a des alliances partout, des alliances que même les partis centre-droit ne s'attendaient pas à proposer il y a quelques années, 5-6 ans. Il y avait tout de même l'ancien président, le premier ministre allemand, j'ai oublié son nom, qui est de centre droit.
Friedrich Merz.
Voilà, Friedrich Merz. Et aux dernières élections allemandes, il y a 2 ans, il avait tout de même dit potentiellement qu'il y aurait quelques alliances de circonstances avec l'AFD. Alors là, vraiment, c'est le plafond de verre qui vient de se briser.
Ouais, surtout en Allemagne.
Mais donc ça peut se passer. Et c'est aussi pour une raison pourquoi l'extrême droite, pour moi, je pense pas qu'elle peut vraiment ralentir dans les prochaines années. On dit qu'elle ralentit, mais elle ne fait que continuer. Elle avait ralenti en 2021 en Allemagne, mais elle est revenue encore plus puissante après. Mais c'est aussi parce que des fois, si tu vas avoir 50 plus 1% des sièges,
il faut faire des alliances. Et la dernière étape à faire, c'est des alliances. Et les alliances, elles commencent à se faire un peu partout. Elle s'est faite en Suède il y a quelques années. Mm-hmm. Des fois, c'est des alliances formelles. Mais vraiment, genre, bam, un tiers des députés ou la moitié des ministres dans ton gouvernement, c'est de l'extrême droite. Ou alors, c'est un peu de circonstances ou de soutien ou d'appui, comme en Suède.
Mais peut-être pour rajouter juste vite fait, c'est que j'ai l'impression ces derniers temps que aux élections un peu partout dans le monde, les votes se dispersent un peu partout. Avant, il y avait peut-être un ou deux grands partis qui pouvaient rafler la majorité du vote, mais maintenant, c'est plus vraiment le cas dans plusieurs pays, provinces, États, régions,
exactement,
etc. Et donc forcément, si les votes se dispersent autant, ce serait plus facile de trouver une majorité, ce qui amènerait forcément, logiquement, à devoir chercher des compromis, à faire des tractations, des alliances.
Mais ça, c'est très vrai, parce que, en fait, le problème, un petit problème avec l'extrême droite, c'est qu'elle peut être très populaire pour une partie de la population, mais elle est trop taboue encore pour une autre partie de la population. Et juste ce tabou fait que des personnes qui sont peut-être même très à droite vont continuer à voter centre-droite. Je connais des personnes chez les Républicains qui peuvent clairement voter Zemmour ou RN, mais continuent à voter Républicains parce que ce sont des vieux chiraquiens, etc. Et tout ça. Et par principe, ils continuent à voter pour ça. Donc ça fait que ça aide pas autant les partis d'extrême droite à avoir la majorité de l'Assemblée nationale, mais ça pousse aussi, ça stimule davantage les partis de droite à s'unir ensemble sur le court et le long terme.
Parfait. Merci infiniment pour vos éclairages fort intéressants, comme d'habitude.
Merci, madame.
Pour cette élection, bon, pour cette émission qui est un petit peu débordée, mais non sans raison valable, parce qu'il fallait bien qu'on déballe notre pensée. Donc, bref, c'était tout à fait justifié. Merci infiniment. C'était un sujet très intéressant à aborder. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine à la même heure sur la CFA 88.3 pour continuer à jaser politique. Merci et bon après-midi.